Patrick Poivre d'Arvor, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de me recevoir et de m'accorder quelques minutes de votre temps si précieux. Je voudrais commencer par une citation de Gustave Flaubert. Et voilà ce que dit notre ami Gustave Flaubert. « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire. » Et vous, Patrick Poivre d'Arvor, qui êtes-vous? Comment pourriez-vous vous présenter?
Bon, d'abord, je fais mienne la citation de Flaubert, qui est très belle et qui est fort juste. Moi aussi, j'ai une sensibilité à fleur de peau. J'ai beaucoup écrit sur des sujets de cette nature. Et j'aime vivre dans cet univers romanesque depuis maintenant 50 ans, puisque plus de 50 ans même, puisque j'ai écrit mon premier livre à l'âge de 17 ans et j'ai toujours vécu de cette manière, voilà. Donc je pense que mes livres me racontent, même s'il s'agit de romans, même si j'ai parfois d'essais ou de biographies de personnages très variés, je crois qu'ils me racontent peut-être davantage que tous les journaux télévisés que j'ai pu présenter ou toutes les émissions que j'ai pu produire.
Alors on va en reparler à la fois du journalisme et de la littérature, des livres, mais très rapidement, pouvez-vous nous tracer les grandes lignes, très grandes lignes de votre carrière professionnelle?
C'est relativement simple, j'avais fait des études pour devenir diplomate, parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'écrivains chez les diplomates, donc ça me tentait de faire ça. Donc j'avais fait langues O, Sciences Po, plusieurs langues étrangères différentes, du droit, et puis un jour, en écoutant la radio France Inter, j'ai entendu qu'il y avait l'annonce d'un concours qui s'appelait un envoyé spécial, consistait à faire le tour du monde. On était 2 000-3 000 candidats, j'ai eu la chance d'être retenu, et j'ai eu surtout la chance, un an plus tard, de gagner ce concours, puisque ça a duré un an, on diffusait nos reportages tous les soirs de la semaine, et c'était une très très belle aventure. Voilà, c'est comme ça que tout a démarré. J'ai gagné ce concours, je suis donc rentré à France Inter pendant à peu près 4 ans, 3 ans et demi, et après je suis arrivé à la télévision. La 2 d'abord, puis Canal, puis TF1.
Une grande carrière journalistique. Vous venez de dire que vous vouliez au début être diplomate. Et cela me rappelle la belle citation d'Alfred Capu, journaliste Alfred Capu.
Oui.
Et voilà ce qu'il dit, le journalisme est l'école primaire de la diplomatie.
Ah bah voyez, vous me l'apprenez, je ne la connaissais pas cette formule.
Et je trouve qu'elle est très belle.
Elle est assez juste, hein. Bon, tous les journalistes ne sont pas très diplomates, mais un grand nombre de diplomates sont quand même journalistes, quoi. Ils essaient de savoir les choses et d'en tirer une leçon. Et donc, oui, c'est une jolie formule que je ne connaissais pas.
Quelle est la définition, donc question sémantique, d'un journaliste?
Ah, son nom l'indique, il travaille de jour surtout. Il raconte le jour, au jour le jour, il raconte ce qui s'est passé en France ou dans le monde. Et singulièrement un présentateur de télévision, voilà, il est là pour faire la synthèse des choix, mais si possible de bons choix, et si possible des choix très 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 généraux et sans parti pris. Et puis après, chacun se fait sa propre opinion sur la base de ce qu'il entend, voit ou lit dans les journaux, à la télévision ou à la radio. Voilà, c'est un beau métier, c'est pas un milieu que j'adore, j'ai toujours dit, je m'en suis encore rendu compte il n'y a pas si longtemps, un milieu que j'adore parce qu'il y a beaucoup trop de jalousie, de compétition, des choses comme ça qui me paraissent parfaitement absurdes, mais le métier lui-même est quelque chose de magnifique, vraiment. Alors, je ne regrette pas une seconde.
Oui, alors il faut parler d'interprétation, et je pense à Honoré de Balzac qui dit « Pour le journaliste, tout ce qui est probable est vrai. Quelle est cette part de vérité qui se trouve à la fois dans le métier de journaliste, dans la profession, et puis dans l'information que vous transmettez? »
Je crois qu'il faudrait justement que les journalistes soient beaucoup plus à cheval sur le mot « probable ». C'est possible, ça peut être du conditionnel, c'est pas obligatoirement du présent, c'est pas obligatoirement de l'affirmatif. Et je pense que notre métier aurait à gagner justement à un peu plus de doute, écouter davantage les versions des uns et des autres, et non pas courir tous dans la même direction derrière je ne sais quel coup de sifflet. Voilà.
Et le doute,
quelle est la place du doute ? Il est capital dans le journalisme, comme il est capital chez les magistrats, comme il est capital chez les médecins. À chaque fois que vous avez à vous occuper de la vie d'un homme, d'une femme, c'est très important d'être dans le doute, mais c'est très important d'être aussi dans le savoir. Plus on sait, plus on a appris de choses, meilleure est la décision. Enfin, du moins, je le pense.
Mais est-ce que le fondement du savoir ne se forge-t-il pas dans le doute ? C'est parce que je doute que je sais.
Évidemment, évidemment. Oui. Évidemment, c'est même passionnant de douter. Je ne comprends pas que des gens prennent ça pour une tare ou un handicap. Au contraire, c'est formidable. On avance, on avance avec sa petite lanterne, elle est plus ou moins éclairée, dans une pénombre plus ou moins appuyée, et on fait son chemin. Et le chemin est parfois très difficile.
Oui, vous êtes assez cartésien finalement. Le « je pense donc je suis » de Descartes, ce doute, puisqu'il a fondé sa propre réflexion sur le doute, on pourrait la faire vôtre, si je puis dire.
Oui, bon, il est passé avant moi, donc 4 siècles avant, et il a dit des choses extrêmement bien.
Alors dans le journalisme, quelle est la place de la présence ? Est-ce que vous êtes présent devant la caméra et vous rendez présent l'information derrière la caméra ? Quelle est cette force de la présence ?
C'est vrai que c'est un journalisme qui ne ressemble pas à celui du journalisme écrit ou même du journaliste radio, bien que ça se rapproche. Mais il y a en plus la dimension, je dirais, charismatique ou simplement de pure transmission du présentateur qui est là, une sorte de médiateur entre l'information et le téléspectateur qui est en train de regarder. Et donc, il y a des gens qui ont zéro présence, voilà, c'est comme ça, c'est pas de leur faute, c'est pas plus grave que ça, mais c'est embêtant si on veut faire de la télévision, ou de la politique, ou je ne sais quel métier public. Et puis, il y a des gens qui ont peut-être plus de présence que d'autres. Souvent plus de présence, parce que plus de sincérité, d'ailleurs. Il faut dire les choses, affirmer, y compris avec ses défauts. Je pense que c'est très important. Et ça permet d'avoir... certainement un recul vis-à-vis des événements et en même temps, comme vous le dites, une présence, je sais pas, une forme de lumière, quelque chose qui fait que vous êtes passé et qu'il reste une petite trace de votre passage.
Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas formuler, le travail du journalisme, être présent dans la présence pour accueillir l'autre comme un présent ?
Si vous voulez, c'est possible. C'est pas le but, hein.
Oui.
Le but du journalisme, c'est quand même de raconter une histoire qui est l'histoire du monde ou du département ou de la ville ou du pays. Et après les gens font ce qu'ils en veulent de ce présent-là.
Oui, c'est ça. Alors je voudrais passer au deuxième grand point, à savoir l'écriture. Mm-hmm. Nous sommes dans votre magnifique bibliothèque. Vous me faites penser à Claudel. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'est vrai que vous présentiez les journaux, donc vous parliez, maintenant vous écrivez. Et Paul Claudel souligne que l'écriture a ceci de mystérieux, elle parle. Mmh. Vous continuez à parler à travers vos ouais. ouvrages.
J'ai commencé par ça d'ailleurs.
Hein. Oui.
Puisque ce premier livre, je l'ai écrit, Les enfants de l'aube, j'avais 17 ans quand je l'ai écrit. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas arrêté. J'en ai encore écrit... deux tout récemment.
Vous êtes à plus de 75
bouquins. Voilà, j'aime ça. Et puis, je ne me force pas. Hein. Si l'inspiration ne vient pas, elle ne vient pas. Et je ne la cherche pas. Mais souvent, elle se présente à moi. J'ai de la chance. Ouais.
Le livre est-il un miroir pour vous ?
Un peu, oui. Un peu. Parce que quand vous êtes en train de coucher sur le papier... des émotions que vous prêtez à tel ou tel, ou vos propres émotions, bah oui, en effet, vous êtes au-dessus de d'un miroir. Et on essaie de faire que la photographie renvoyée par le miroir soit de qualité. Et pas forcément ressemblante, c'est pas le plus important. On peut écrire des romans, on peut écrire milliards de fictions de toute nature, mais en revanche, c'est très important d'essayer de faire, de rendre les choses belles, quoi. Limpides et belles. La beauté, pour un lecteur d'ailleurs, et aussi bien pour l'écrivain, c'est quelque chose de capital.
Mais alors, est-ce que en écrivant, vous cachez-vous derrière le livre ou autrement, comment
oui,
dirais-je,
ça peut
vous
arriver.
Révélez à travers le livre.
Ça peut arriver que des romans, ce qui apparaît comme roman, ce qui est marqué comme roman sur la couverture par l'éditeur, ça peut arriver qu'il s'agisse en effet d'une histoire très interprétée, une histoire qu'on ne veut pas raconter comme telle, mais qu'on habille. Et souvent, ça permet de pouvoir dire peut-être plus de choses qu'avec le simple « je », qui est réducteur.
C'est très difficile d'écrire « je ».
Non, mais ça dépend. Vous savez, moi, quand j'ai écrit mes livres sur ma fille, par exemple, ma fille Solène, qui n'est plus là, ou sur ma mère, j'ai écrit « je » naturellement, et j'ai écrit très vite, et très vite, je dirais presque très facilement. En revanche, il y en a d'autres où c'est pas si simple, et la plupart du temps, je me suis réfugié derrière le « il ».
Oui.
Ou le L,
oui.
Qui était plus commode.
Parce que vous avez toujours été, en tout cas dans votre enfance, très très timide. Est-ce que le fait d'écrire vous a fait perdre votre timidité?
Je ne sais pas, c'est très étrange parce qu'en effet, j'ai commencé à écrire à un moment où je quitte chez moi. J'ai eu mon bac relativement tôt, donc je quitte Reims pour arriver à Strasbourg. Je n'ai pas d'amis à ce moment-là. Et j'écris le soir, la nuit, dans ma petite chambre de bonne. Et peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir au monde, juste après avoir écrit ce premier livre, puisque quelques mois plus tard, je débarque à Paris, et là, je m'ouvre davantage.
Dans une de vos interviews, vous soulignez, Patrick Poivre-d'Arvor, que vos seuls amis étaient les livres. Comment définissez-vous définissez-vous l'amitié? Un ami, c'est quoi?
C'était plus que les livres, c'était les héros des livres.
Les héros des livres.
Voilà.
Oui.
Et c'est devenu d'ailleurs un peu plus tard les gens qui ont écrit ces livres.
C'est ça.
Pour moi, c'est Rimbaud est devenu assez vite un compagnon. Si j'ai pris mon Solex un jour de Reims à l'âge de 14 ans, on venait me l'offrir pour me rendre sur sa tombe à Charleville, c'est parce que je me rendais sur la tombe d'un aîné. Donc ce sont ça a été très précieux pour moi. Ce sont des compagnons très importants. Et vraiment, je les en remercie tous les jours. Et je me nourris encore d'eux très régulièrement.
Ils vous ont appris à vous connaître?
Peut-être, en tout cas à connaître le monde, ça j'en suis sûr. Ça, c'est obligatoire, le monde, mais aussi 1000 sentiments que je ne connaissais pas forcément. La jalousie, la méchanceté, l'amour, tout ça, je les ai découverts dans les livres d'abord. D'où ma conception, parfois peut-être un peu trop romanesque des choses.
Mais la définition même de l'ami, qu'est-ce qu'un ami pour vous?
Je peux vous dire que d'abord, ce n'est pas l'ami Facebook. Hein. Les gens qui se vantent d'avoir 5000 amis Facebook... Je peux dire, je les envie pas. Ils n'ont évidemment pas 5000 amis. On a 5 amis. On peut en avoir 15. Et puis après, on a de bons copains. Et après, des relations, mais c'est tout. Un ami, c'est quelqu'un qui peut être là à tout moment. Voilà.
Vous parlez des réseaux sociaux. Quel regard avez-vous actuellement sur tous ces réseaux? Est-ce qu'ils transmettent une information, une désinformation?
C'est un regard assez négatif que j'ai. Pas en toute chose, hein. Il est fort utile de pouvoir utiliser à tout moment les recherches pour savoir telle ou telle chose. Ça va beaucoup plus vite qu'au départ quand on n'avait que de simples dictionnaires. Ça peut être utile pour éventuellement créer du lien, et encore, j'ai des liens parfois artificiels, Mais en revanche, ça devient extrêmement préjudiciable quand il s'agit de donner son avis sur à peu près tout, sans rien savoir de quoi que ce soit. Ça, c'est assez grave et ça arrive, hélas, de plus en plus. Et puis, l'anonymat, pour moi, c'est une monstruosité. Comment ne peut ne pas avoir le courage de révéler son nom ou son visage, peu importe, mais dire c'est moi qui vous parle, c'est moi Patrick, c'est moi, et point final, plutôt que de se cacher derrière des pseudonymes, etc., et pourrir les gens. Non, ça c'est pas satisfaisant du tout. C'est pas une belle évolution du monde. Mais il y a d'autres choses qui sont en revanche efficaces et qui peuvent aider beaucoup.
Les livres, par exemple.
Oui, les livres. Et vous voyez, les adolescents, parce que je pense souvent à eux, je pense à moi qui l'étais. Donc, les adolescents, souvent, ils sont harcelés parce qu'il y a des gens qui leur font une forme de chantage. C'est dégoûtant d'utiliser ça. Donc, plutôt que de lire sous ces réseaux sociaux qui sont très, 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 très artificiels, il ferait mieux de lire les vrais livres.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce qu'un livre? J'aurais pu vous poser la question tout à l'heure, mais j'ai fait exprès de ne pas vous la poser. Comment définissez-vous le livre, un livre?
Bah, un livre, pour moi, c'est un passeport pour l'évasion. C'est un passeport qui vous permet de partir loin, soit géographiquement, soit dans la force d'un sentiment ou d'une. Voilà, et puis ça. On peut l'aimer parce que justement pour les qualités esthétiques que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi pour des qualités plus intellectuelles ou pour la musique de la phrase, pour le style. Ça permet vraiment beaucoup, beaucoup de développer beaucoup, beaucoup de sentiments et d'atouts, je
Oui,
pense.
et vous qui êtes un grand écrivain, quelle définition donnez-vous au verbe écrire?
Pour moi, écrire, c'est vivre, hein, c'est respirer, c'est vraiment respirer. Voilà, moi, si je n'écrivais pas, je pense que j'aurais été oppressé, quoi, me semble-t-il. Là, grâce à l'écriture, je me libère d'un certain nombre de choses, donc
Oui.
c'est très bien.
Vous me faites penser au grand philosophe André Comte-Sponville, qui souligne que l'écriture est un luxe, l'écriture est un bonheur et l'écriture est une liberté. Vous rejoignez-vous
Bon, il a
cette...
parfaitement raison.
En quel sens est un luxe
Bah,
l'écriture?
vous savez, tout le monde n'a pas la possibilité d'écrire. Tout le monde n'a pas la possibilité d'être publié. Donc, ça, il faut bien savoir que quand on écrit et qu'on est publié, c'est un luxe par rapport à des tas de gens qui aimeraient ou qui écrivent, et peut-être très bien d'ailleurs, mais qui gardent leurs manuscrits pour eux. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, bien sûr que c'est une liberté. C'est une liberté formidable. Et voilà, je n'ai pas à juger évidemment ce que j'écris, mais je suis heureux de pouvoir écrire. Je suis très très heureux. C'est une forme de liberté.
Parce que ça vous rend libre et aussi ça rend libre le lecteur, peut-être. En tout cas,
Je sais pas,
ça peut
oui,
le
en tout cas,
rendre
ça
libre.
apporte quelque chose au lecteur qui après a le droit de faire ce qu'il veut de notre livre. Il peut le transformer à sa guise, il peut imaginer les personnages d'une manière très différente de la manière dont on les a imaginés. Oui, c'est vraiment un luxe magnifique.
Patrick Poivre d'Arvor, Comte-Sponville dit que l'écriture est un bonheur. Êtes-vous heureux? Et je dirais, qu'est-ce que le bonheur pour vous?
Le bonheur, c'est très relatif d'abord. Et puis voilà, ça peut être très vite troublé par tel ou tel événement. Moi, j'ai eu la douleur de perdre trois de mes filles, donc je peux pas dire que je sois heureux parce qu'elles sont là, et même si je vis avec leur absence, c'est quand même très très douloureux. Je traverse des moments de bonheur, voilà. Et je tends vers le bonheur. Mais vous dire que je suis heureux, voilà, grande affaire.
Est-ce qu'on ne mélange pas le bonheur et le plaisir qui est assez éphémère, et le bonheur qui par définition serait durable?
Bah oui, non, le bonheur, hélas, c'est aussi très éphémère.
Oui.
Très, très éphémère. Vous savez, j'ai vu tout à l'heure un très beau film qui vient de sortir, qui s'appelle Tout s'est bien passé, qui est tiré justement d'un beau livre que j'avais aimé d'Emmanuel Bernheim. Tout ça est extrêmement bien raconté, avec les différents arts qui sont utilisés. Il y a la sculptrice, Charlotte Rampling, il y a l'écrivain, donc Sophie Marceau. Il y a le cinéaste lui-même, François Ozon. Voilà, et l'ensemble de tout ça donne comment dire, des petits patchworks de bonheur.
Oui.
Et est-ce que c'est le bonheur final? Je sais pas. C'est impossible.
En parlant de ce bonheur final, vous évoquiez le décès de vos filles. Je dirais quelle, non pas conception, mais quel regard avez-vous sur l'au-delà, dans ce côté très mystérieux de la mort finalement?
Oui, vous voyez, ce sujet est abordé dans le film dont je viens de parler. Enfin, il est abordé et il n'est pas abordé. C'est-à-dire que le père André du Sollier ne pense qu'à mourir, il veut mourir dans la dignité, mais il ne parle jamais de ce qui se passe après. Or, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi dans sa vie. Écoutez, j'aimerais croire qu'il y a quelque chose après. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous affirmer que j'ai des certitudes, mais j'aimerais que ce soit possible.
Marguerite Duras souligne que écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit.
On a fait
Est-ce
un livre,
votre
même.
cas? Oui.
Oui, bien sûr, il peut arriver. J'évoquais les livres sur ma fille. Voilà, c'est ma façon de parler de ma douleur tout en la tenant à distance et tout en ne gémissant pas et tout en essayant de rester pudique.
Et aujourd'hui, est-ce que vous hurlez sans bruit, si je puis dire, en observant le monde, tout ce qui se passe dans le monde?
Franchement, il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas hurler devant tout ce qu'on voit. Bon, la politique, c'est une chose, mais il y a les conséquences de la politique. Et quand on a vu cette évacuation navrante des Américains de Kaboul, et quand on voit ces pauvres gens qui sont laissés à eux-mêmes, oui, on se pose beaucoup de questions, bien sûr, sur la nature humaine et sur les grandes valeurs de la démocratie.
Le monde vous fait-il peur? Le monde
Non,
qui
non,
arrive?
non, non,
Non.
non, il faut tout affronter, et puis il faut, comme je l'ai laissé entendre à l'instant, il faut arrêter de se plaindre de tout. Nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses infiniment plus douloureuses que ce que nous vivons, mais c'est vrai que c'est pas, vous voyez. Il y a un an et demi, qui nous aurait dit que nous allions être paralysés et que le monde entier allait être paralysé par un petit virus de rien du tout. Voilà, tel est le monde, il faut l'affronter, il faut le contourner, il faut pas le refuser. Ça, voilà.
Patrick, pour avoir d'abord, l'interview va bientôt se terminer. C'est un cercle de pensée anthropologique de Venir pour agir qui est destiné à des milliers de jeunes qui nous regardent. Aujourd'hui, quel message pouvez-vous leur adresser à tous ces jeunes qui vous regardent? Quel
Moi,
message d'espérance?
je leur dirais d'abord d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Pour moi, c'est capital. J'ai eu des rêves quand j'étais enfant. J'ai pensé que je ne les réaliserais jamais parce que j'étais d'une famille très modeste, à Reims, sans relation, sans quoi que ce soit, et que moi-même j'étais timide et je croyais que c'était un handicap insurmontable. Or, j'ai pu accomplir un très grand nombre de ces rêves. Donc, c'est possible pour vous qui nous regardez, c'est possible pour tous, quel que soit le point de départ de votre vie. Voilà, c'est sûr qu'il faut, il faut bosser, hein, parce que les choses n'arrivent pas toutes cuites, qu'il faut lire, parce qu'on apprend vraiment beaucoup, mais il faut y croire surtout, croire dans la possibilité d'un vœu exaucé. C'est très important, là. La quête de Jacques Brel, qu'il chante dans L'Homme de la Mancha, c'est très beau. Voilà, pour moi, je leur conseillerais de continuer à rêver d'une inaccessible étoile. Important.
Les amis, écoutons ce que vient de dire notre ami Patrick Poivre d'Arvor. Continuons, rêvons, allons jusqu'au bout de nos rêves. Patrick Poivre d'Arvor, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer par une magnifique citation de Victor Hugo.
Allez-y.
Qui vous ressemble. Victor Hugo souligne « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » Mais Patrick Poivre d'Arvor, vous n'êtes plus derrière la caméra, mais vous êtes dans nos salons, vous continuez à être dans nos salons, dans nos bibliothèques, avec tous les livres que vous publiez. Merci infiniment pour votre présence,
merci
pour la profondeur de vos mots, et merci pour tous les beaux livres que vous nous offrez. Merci infiniment.
À bientôt.
À bientôt, merci.